Vous écoutez France Culture.
Sarah Petitbon est aux manettes du journal ce matin. Elle sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information, c'est le secret des sources sur France Culture avec ce matin au poste de pilotage Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Alexandre Dang. Et avec vous, comme toujours, préparez et affûtez vos commentaires sur franceculture.fr. Numéro hors série du secret cette semaine puisque nous recevons un invité unique, l'homme qui est chaque soir pour 7 à 8 millions de Français le visage de l'information, le chef d'orchestre du JT de 20h sur TF1, Gilles Boulot. Bonjour.
Bonjour.
Numéro hors série donc, pour poser une série de questions sur la responsabilité sociale d'être finalement le premier médiateur de France. Quel rôle social doit jouer le journal télévisé aujourd'hui et comment se fabrique-t-il? Dans quelle logique éditoriale? Avec quelles contraintes ou pressions? Toutes ces questions, nous allons donc les poser à un homme au profil et au regard originaux, puisque vous n'avez pas, Gilles Boulot, un parcours standard pour un présentateur du JT. Vous avez bourlingué, comme on dit, connu à peu près tous les services et toutes les spécialités avant d'être longtemps correspondant à l'étranger. Bref, un profil presque de reporter plus que de star. Pour vous interroger avec moi ce matin, plusieurs des chroniqueurs observateurs des médias dans le secret des sources, exceptionnellement réunis ce matin. L'historienne directrice du laboratoire communication et politique au CNRS Isabelle Vera-Masson, la sémiologue Mariette Darigrand, l'avocat spécialiste du droit des médias Fabrice Lorvaux et l'homme des images et du multimédia sur France Culture, Éric Chavroux. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Quel beau cœur.
La situation de plus en plus instable en Centrafrique. Deux soldats français ont été tués la nuit dernière à Bangui. François Hollande est arrivé sur place il y a moins d'une heure. Il a confirmé que l'armée française resterait plusieurs mois dans le pays. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité.
Ouverture de l'un des journaux télévisés de cette semaine, en l'occurrence mardi soir, sur l'intervention militaire et le déplacement de François Hollande en Centrafrique. La question de l'ouverture et de la hiérarchie de l'information est évidemment cruciale, a fortiori sur ce carrefour-clé du 20h. Gilles Boulot, comment se décide cette hiérarchie sur le JT de TF1? Et pour être plus précis, quelle est la part dans votre logique de, on va dire, de la loi de l'offre, c'est-à-dire votre envie, votre raisonnement à vous, et de la loi de la demande, c'est-à-dire l'intérêt ou l'envie supposée du téléspectateur?
En fait, il y a une troisième loi qui se surajoute, qui est la loi du possible. C'est-à-dire qu'il y a à la fois notre intérêt, notre bagage, notre expérience qui nous invite à dire « Écoute, je pense que ce soir, nous devrions ouvrir là-dessus. » C'est la logique du déroulement de l'actualité des dernières 24 heures. Il y a le fait, on en reparlera, j'imagine, un peu plus tard, que nous n'oublions jamais que nous parlons au public le plus large possible, avec un spectre de curiosité le plus large possible. Et troisièmement, il y a la contrainte, mais qui est une contrainte créative, j'imagine, qui fait que certaines choses ne sont pas possibles. Alors pour le Centrafrique ou pour les obsèques de Nelson Mandela, eh bien, si vous avez un faisceau, le faisceau, c'est le satellite qui joint l'envoyé spécial de Johannesburg à Paris, s'il n'est pas possible d'avoir ce faisceau ouvert à 20h12, eh bien, vous n'aurez pas d'envoyé spécial à 20h12. Donc il y a le carrefour entre le possible, le souhaitable et la conscience permanente de l'auditorat, si je puis dire, en tout cas des téléspectateurs auxquels on s'adresse.
L'enjeu est majeur parce que, et j'ai envie de vous demander si vous vous posez cette question chaque jour. Par définition, puisque vous êtes le carrefour central d'information en France, vous allez, avec cette hiérarchie de l'information, d'une certaine façon, modeler aussi la pensée ou le discours dominant dans la société. Est-ce que vous vous posez cette question au jour le jour?
Tout le temps. 15 heures par jour. De 9h du matin, heure de la première réunion, jusqu'à 20h, ou en tout cas 19h59, où il y a un repentir possible, on peut encore inverser les titres, on se la pose tout le temps. Parce que de l'ouverture du journal va découler une logique de narration qui va nous mener de 19h59 à 20h34. On ne fait pas n'importe quoi, on ne mélange pas les choux et les carottes, et donc c'est très important. Et l'endroit, le moment où vraiment cette question se pose de manière évidente, aveuglante, impérieuse, c'est 16h30. 16h30, c'est la fin de la conférence de l'après-midi. Et là, on a notre conducteur théorique et on se dit, bon, les enfants, quels sont les titres ce soir? Il y a 5 titres, 3 grands et 2 petits, qui sont cadrés techniquement différemment. Qu'est-ce qu'on raconte?
C'est une discussion entre vous et le rédacteur en chef?
Moi, les deux rédacteurs en chef, le responsable d'édition, tout ça après avoir phosphoré, hésité pendant assez longtemps.
On évoque souvent la dictature de l'audience quand on parle des JT. Vrai ou faux?
Non, il n'y a pas de dictature de l'audience. Il y a une boussole de l'audience. Le lendemain matin, le lendemain de n'importe quel journal, vous avez l'audience et vous la regardez. Et vous vous dites, elle est bonne ou elle est suffisamment bonne, continuons le chemin. Et cette boussole, elle nous montre le chemin. Elle nous montre le fait que nous ne nous éloignons pas de ce que les gens ont compris. Et donc ça, c'est très important.
Je voudrais qu'on prolonge cette réflexion aussi sur la question finalement du consensus ou disons du sujet consensuel pour le plus large public, comme vous disiez au début. On va prendre un autre exemple, c'est le JT du 12 mars dernier.
Du jamais vu depuis plus de 40 ans, le retour brutal de l'hiver a été accompagné de chutes de neige exceptionnelles, 40 cm en plaine dans l'ouest du pays, 27 départements placés en vigilance orange, la Manche et le Calvados en vigilance rouge. Avec tous nos envoyés spéciaux et avec notre spécialiste météo Evelyne Delia, nous consacrerons une grande partie de ce journal à ces intempéries qui ont ralenti ou bloqué des millions de Français. Bonsoir et bienvenue à tous.
Ce soir-là, vous avez consacré, je crois, Gilles Boulot, 35 des 40 minutes du journal à cet épisode neigeux. Alors bien sûr, on l'a compris, il était exceptionnel à cette date de l'année sur la moitié nord de la France. Reste que je dis ça de mémoire, il n'a pas fait de victimes ou quasiment pas de victimes. Alors 35 minutes, c'est encore plus que la mort de Mandela. Est-ce qu'on n'est pas, me semble-t-il, dans ce cas-là, face à cet essor assez marquant dans les journaux télévisés ces 20 dernières années de ces sujets, on va dire, concernant, comme les appellent certains journalistes, ou facile, et les sujets météo en étant sans doute l'incarnation de ce sujet concernant presque chimiquement pur. À quoi est-ce que vous attribuez cette évolution-là?
D'abord, je ne suis pas certain qu'il y ait eu cette évolution-là, mais pour reprendre la neige, ce qui est important, la neige ou autre événement qui modifie physiquement vos faits et gestes du lendemain. C'est-à-dire que si votre train est bloqué, vous ne partirez pas. Il y a une dimension très importante dans un 20h, mais dans un 13h, et dans un journal du matin sur France Culture, il y a un aspect d'information pratique. Qu'allez-vous pouvoir faire ou ne pas faire demain? Dans quelles conditions? Donc, épuiser le sujet dans un pays qui est assez grand comme la France, il faut le temps de le faire. Et puis, il y a, dans l'information et dans le journal de 20h, mais pas seulement, il y a les dimensions dans la narration du vécu, c'est-à-dire ce que ressentent les gens. Et
nous en faisons l'écho de ça. Excusez-moi, la question, c'est celle de la proportion.
Ouais.
C'est à la limite pas celle de l'ouverture, mais là, celle de la proportion, c'est-à-dire, encore une fois, 35 minutes sur 40.
Bien sûr, mais quand on sent, par exemple, que le vent de la révolution tourne en Syrie, on fait 18 minutes sur la Syrie. Et personne ne nous fait le reproche de dire, mais dites-moi, la Syrie, c'est quand même très, très éloigné des préoccupations des gens qui habitent à Pontoncombo. Mais pas du tout. La Syrie, c'est vous. La Syrie, c'est moi. La Syrie, c'est à 2h30 d'avion et c'est passionnant. Quand on fait en mars, quelques jours avant ou après la neige, 20, 25, 20, 30 minutes sur l'élection totalement surprenante d'un nouveau pape, on ne nous dit pas, vous savez, cher monsieur, que la France est en voie de déchristianisation et qu'il y a 4% des Français qui sont des catholiques pratiquants. Et donc, il y a 96% des gens qui ne s'intéressent absolument pas au pape. Ça, ce n'est pas une boussole pour nous. On se dit, le pape, c'est incroyable, encore un pape qui n'est pas italien, ce qui n'est pas si courant, hein. C'est arrivé peu de fois dans la papauté, il est argentin, qui est-il? Voilà. Et là, pour épuiser le sujet, on a pris 25 minutes ou 30 minutes.
Alors la parole à nos chroniqueurs est d'abord peut-être Isabelle Véramasson, parce qu'il y a l'historienne de la télévision là aussi qui, j'en suis sûr, a envie de s'exprimer. Sur cette question là, des sujets, encore une fois, grand public, dit concernant ou de consensus, je ne sais pas comment il faut les appeler, quel est votre sentiment? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que le média de masse, tel que TF1, est finalement contraint de faire ce genre de sujet consensuel?
Alors, c'est vrai que vous parliez de la dictature de l'audience. Votre réponse, c'était juste, mais on aurait pu l'inverser. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas contraint par cette masse d'audience? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aborder tous les sujets? Est-ce que vous n'êtes pas, d'une certaine manière, limité par cette audience même?
Donc, ça, c'est une autre manière. Elle est centrale, votre question. Elle est vitale. Et contraint ou invité à? On sait que... Enfin, je vous interromps. Le hasard fait que le carrefour de l'information dans une journée de 24 heures où la représentation la plus exacte de la France telle qu'elle est à un instant T, c'est 20 heures sur TF1 ou sur d'autres chaînes. Et c'est là que tout le monde se retrouve. de toutes opinions, de tous âges, de tout niveau culturel, de toutes origines géographiques. Et donc, on parlait de l'obsession, de la, qui est une obsession très intéressante, depuis le matin, de l'ordre, de la hiérarchie de l'information. Mais il y a une obsession qui est encore plus prégnante, qui est celle du niveau de langage qu'on va adopter, que je veux riche et dense, parce que c'est comme ça que je travaille, et aussi de l'endroit où nous pouvons amener nos téléspectateurs, dans quel degré pouvons-nous amener nos téléspectateurs en matière de culture, de géopolitique, d'analyse politique, de science. Et la réponse est, il n'y a pas de limite. Dans mon esprit, il n'y a pas de limite, et on ne sait sans doute pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer par 1000 exemples que nous ne nous auto-censurons pas en disant, oula, attention, nous parlons à des agrégés d'anglais, nous parlons à notre voisin de palier, nous parlons à ma nièce qui a 14 ans et nous parlons à un nonagénaire qui a fait 500 fois le tour de la Terre. Et ben, tout ça, ça nous nourrit. On dit, voilà, oui, nous parlons à toute cette personne-là.
Alors, en ce qui concerne les sujets de société, c'est vrai que l'histoire de la télévision nous montre qu'ils n'ont pas toujours eu la même place dans les journaux. Les faits divers, par exemple, n'ont pas été, dans les premières années, très présents. Il y avait peu de faits divers à la télévision. Et l'apparition des faits divers, qui sont très nombreux maintenant dans les journaux télévisés, s'apparente à une évolution qui va vers une dépolitisation, une magazinisation. C'est-à-dire que les journaux sont de plus en plus magazines et intéressés par ces questions-là. Donc, est-ce que vous êtes sensible à cette évolution vers une télévision, vers un journal qui serait moins politique, information internationale? L'Inastat nous montre quand même que la part, je regardais avant de vous interroger.
Les faits divers a quasiment doublé en 10 ans.
Voilà, et la part des thèmes de société est de 13 minutes 35, alors que 13 heures par contre 35 sur un volume trimestriel, alors que les catastrophes 2, l'économie 5, etc. Donc, on est quand même, on voit bien dans un journal, je parle de TF1, dans un journal.
Mais sur les faits divers, les statistiques, je vais une incise, c'est les similaires pour TF1 et France 2 en l'occurrence.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a à peu près le double de faits divers par rapport à il y a 10 ans. C'est juste des chiffres de l'INA, donc c'est intéressant à analyser. Pourquoi ?
Moi, j'ai été beaucoup élevé aux faits divers parce que j'étais dans le service des infogénés pendant de très longues années. Donc, les faits divers m'intéressaient il y a 25 ans et ils m'intéressent aujourd'hui à partir du moment où ils ont un caractère exceptionnel au sens du petit Robert, exceptionnel, et où ils trahissent, où ils traduisent, où ils illustrent une problématique. Donc, des meurtres crapuleux, des escroqueries, des raquettes, il y en a tout le temps. Dans quelle mesure cet événement-là nous intéresse-t-il ? J'ai le sentiment qu'on fait un tri extrêmement sélectif, et puis par goût, moi, j'ai pas beaucoup le goût du sanguinolent et de ces choses-là lorsqu'elles sont gratuites. Donc, j'ai pas du tout. Puis, avec l'équipe qui m'entoure de rédaction en chef, on n'a pas collectivement le goût pour ça, et on est très rarement dans le fait divers. L'erreur serait de croire que nos téléspectateurs sont avides de ça. On parlait de l'audience, de la structure d'audience. Ben, je vais révéler un scoop. Les téléspectateurs, à 20h, ils sont chez eux et ils ne sont pas du tout avides de sang, de larmes et d'horreur sous toutes leurs modes d'expression.
Alors, puisqu'on on a basculé sur les faits divers, réécoutons quand même comment ne pas réécouter quelques instants feu Pierre Bourdieu.
Les faits divers. On pourrait dire, pour faire un jeu de mots, les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, alimentaire de l'information. La denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon. Penser qu'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, ça veut dire que ces choses si futiles, en fait, sont très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses, elles cachent des choses importantes.
Le fait divers fait diversion, disait Bourdieu. C'est vrai qu'un fait divers, Gilles Boulot, par définition, est un fait, on va dire, individuel, du moins particulier. Mm-hmm. Tous les faits divers traités dans les JT ne sont pas l'incarnation de faits de société. Et par exemple, si on compare les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, doublement du nombre de faits divers traités dans les JT les chiffres de la criminalité globale, la criminalité n'a pas doublé en 10 ans. Donc il y a quand même un choix journalistique. Et je ne parle pas du vôtre individuellement, je parle globalement du paysage des journaux télévisés. Hein.
Moi, ce qui m'intéresse dans les faits divers, mais j'ai été un petit peu élevé avec ça au tout début où j'ai débuté dans ce métier, c'était l'affaire Grégory. C'est-à-dire que
elle a marqué toute notre génération
mais
de journalistes.
En quoi était-elle passionnante et en quoi a-t-elle dépassé sa propre nature de faits divers ? C'est que j'ai passé quand même de longues semaines, de longs mois, Épinal, Gérardmer, La Vologne, etc., avec beaucoup d'autres journalistes, de tous médias confondus, de toutes obédiences, pourrais-je dire, confondues. Et ce qui nous a fascinés, au-delà du sort de ce malheureux garçonnet, c'était les dysfonctionnements d'un pays en 1984. Des policiers qui se prennent pour des journalistes, des avocats qui se prennent pour des procureurs qui voient être stars de music hall, des juges d'instruction qui pètent un câble. Et c'était passionnant, c'était la France des années 80. D'ailleurs, d'éminents écrivains s'en sont emparés, Marguerite Duras et d'autres. Et le sujet était, il est encore inépuisable. Et l'affaire
mais
de
c'est
Minici,
pas vrai de tous les faits divers.
Et c'est, non, pas, vrai, c'est mais... pas tout à fait vrai de celui-là. C'est un fait divers qui ne dit rien de notre société.
Lequel?
Le fait divers lui-même.
Lequel?
L'affaire Grégory, rien.
Il est passionnant en termes
romanesques. Et le traitement médiatique, je suis d'accord, est significatif.
Il dit beaucoup de
mais
choses.
Mais le fait divers
société.
Lui-même ne dit rien.
Lisez le livre de ma camarade Laurence Lacour.
Ben oui, mais elle ne parle que de médiatisation.
Elle ne parle pas de ça. Elle parle de la distorsion que les Parisiens, avocats parisiens, journalistes parisiens, se font de la Vologne en croyant que c'est un milieu agricole. Pas du tout. C'est un milieu ouvrier prolétarien en zone agricole. Première erreur que Bourdieu aurait relevée à l'époque s'il l'avait fait. Et voilà. Et cette histoire m'a passionné et elle disait beaucoup, me semble-t-il, de ce qu'était la France des années 84-86. Me semble-t-il, j'ai la faiblesse de le croire.
Alors, puisque vous parlez d'avocat, Gilles Boulot, transition est toute trouvée, c'est facile, vous me facilitez le travail. Je me tourne évidemment vers Fabrice Lorvaux, notre avocat spécialiste du droit des médias, parce que quand on parle de faits divers, on approche rapidement du fait judiciaire. Et là encore, Fabrice Lorvaux, on a cette sensation que la responsabilité sociale du journal télévisé est déterminante sur ces questions que l'on connaît bien dans le secret des sources, c'est-à-dire poser les limites entre droit à l'information et atteinte à la vie privée.
Oui, tout à fait. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre témoignage sur l'arbitrage que vous faites, si vous en faites un, entre d'un côté l'actualité, avec des sujets, par exemple l'affaire Bettencourt, avec l'affaire Tapie, où on a là un conflit entre le droit de l'information du public, qui est un droit bien évidemment légitime, mais qui n'est ni général ni absolu, et qui a pour limite, notamment le respect de la vie privée. Or, l'enregistrement pour Madame Bettencourt a été jugé comme étant attentatoire à sa vie privée, où nous avons essayé la présomption d'innocence et aussi le droit au respect d'un procès équitable. Et dans l'affaire Tapie, je parle de l'arbitrage, lorsque les médias concluent que l'arbitrage est truqué et tentent de démontrer comment il est truqué.
Alors que la procédure judiciaire est en cours.
Est en cours devant différentes juridictions, on peut se demander si effectivement c'est bien le rôle de la presse de conclure. Donc voilà. Donc quels sont les arbitrages que vous faites vis-à-vis de ces sujets qui sont aussi quand même des sujets d'actualité et que vous ne pouvez pas ne pas traiter?
Gilles Boulot.
D'abord, j'ai une seconde déformation, un second mea culpa, c'est que j'ai passé 10 années dans des pays anglo-saxons où le corps social, les gens, les téléspectateurs, les électeurs ont intégré le fait que la presse au sens global, la presse écrite, la radio, la télévision, ont un rôle pour mettre au jour, divulguer une forme de vérité, si modeste soit-elle, dans un fait divers, dans l'aveu d'un cycliste qui va dire pour la première fois, non pas devant un juge, mais devant un journaliste, qu'il s'est piqué avec des substances prohibées, etc. etc.
Donc, mais pas à tout instant.
Pas à tout instant et pas par n'importe quel moyen, etc.
Et pas au milieu nécessairement d'une procédure judiciaire.
Et pas forcément au milieu d'une procédure judiciaire. Mais il est arrivé fréquemment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis que la procédure judiciaire ou l'éclatement de la vérité soit accéléré et quelquefois perturbé, vous avez raison, par le travail des journalistes. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire que ces médias, qui sont généralement assez riches, mettent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'intelligence. Ils embauchent beaucoup d'avocats pour essayer de faire parallèlement à la justice de leur pays des enquêtes qui sont le plus souvent légales, quelquefois elles ne le sont pas, le plus souvent elles le sont, pour faire surgir une forme de vérité et qu'elles y arrivent. Alors nous, on est dans une autre culture. Il n'empêche, et vous le disiez très justement il y a un instant, quand au milieu de l'affaire Tapie, ce qu'on appelle l'affaire Tapie 3 ou 4, le dernier épisode, celle de l'arbitrage transparent, honnête ou pas, l'une des démarches qu'on peut avoir, nous, c'est de dire à M. Tapie, venez donc sur le plateau vous expliquer. Donc Bernard Tapie vient, on n'est pas du tout là dans le cadre d'un traquenard ou d'un règlement de compte, mais Bernard Tapie vient dans un 20h, il en connaît la grammaire, il sait qu'il n'y aura pas 30 minutes d'interview. Mais il sait qu'il y aura plus d'une minute trente d'interview. Donc il vient, c'est un fin connaisseur des médias, il sait que moi en l'occurrence, puisque c'est moi qui présentais le journal ce soir-là, je vais lui poser des questions pendant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, pour un public généraliste, ça veut dire chasser les acronymes, chasser la terminologie purement judiciaire, ou en tout cas la traduire pour que son témoignage soit
compréhensible. Donc vous êtes à armes égales, c'est ça que vous voulez dire.
On est à armes égales. Bon, j'ai pas le sentiment, en ayant posé des questions à Monsieur Tapie, d'avoir spécialement abondé dans son sens ou d'avoir été un procureur. C'est pas du tout mon rôle. En revanche, poser des questions de bon sens, et c'est ce qui fait notre fierté, enfin la mienne, c'est de travailler pour le plus grand nombre, c'est de poser des questions intelligibles par tous et qui appellent des réponses intelligibles par tous. On ne se cache pas derrière la langue de bois, derrière un spin doctor, un conseiller en image qui va vous dire voilà, dis-lui ça et ça lui suffira.
Et sur cette question du rôle que jouent les médias, et en particulier le JT, sur la délimitation, on le sait très bien, sur la frontière entre vie privée et droit à l'information qu'évoquait à l'instant Fabrice Lorvaux, par exemple, sur les fameux enregistrements Bettencourt, quelle a été votre réaction? On diffuse, on ne diffuse pas, comment on fait?
Oh, alors, la réaction elle était d'autant plus compliquée qu'à un moment de la procédure, corrigez-moi si j'ai fait erreur, la justice a admis que ces enregistrements avaient été obtenus de manière illégale, mais que pour autant, ils n'étaient pas irrecevables.
Exact.
Alors là, sauf quelqu'un qui a eu justement une agrégation de droit pénal, c'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas fait énormément de sujets là-dessus, parce que nous essayions, à l'imparfait, de trouver quelque chose de probant. Et donc, on avait ces écoutes qui étaient effectivement étonnantes, que j'ai lues avec grand intérêt dans Le Point, que j'ai écoutées, etc. Et on n'en a pas fait un usage abusif. Et en même temps, on a trouvé intéressant de poser les questions qui étaient centrales, à nouveau une problématique centrale. Cette dame, octo ou nonagénaire, a-t-elle ou pas toute sa tête? Et des gens qui sont dans son entourage ont-ils abusé d'une éventuelle faiblesse? Voilà. Et on a résumé ça à un enjeu assez simple, même si les méandres, j'en conviens, sont assez compliqués.
Hors série du Secret des Sources sur France Culture ce matin, avec tous nos chroniqueurs réunis autour d'un seul invité, le présentateur du JT de 20h de TF1, Gilles Boulot. On poursuit notre exploration du traitement de l'information dans les JT pour parler de social, d'économie, de politique.
Des images apocalyptiques, dignes d'une scène de guerre. Pendant plusieurs heures, agriculteurs, transporteurs et salariés de l'agroalimentaire ont affronté les forces de l'ordre. Munis de bonnets rouges en mémoire des révoltes contre l'oppression fiscale sous Louis XIV, ils souhaitent mettre à terre le dernier portique écotaxe du Finistère.
La révolution, elle est en marche. Ça y est, maintenant, les Bretons se réveillent et le reste de la France va se réveiller aussi.
On est terminé jusqu'à ce qu'il tombe.
Il y en a marre, on paye, on fait que de payer, on paye partout. Il y en a marre, il y en a marre.
Des affrontements violents, deux personnes ont été gravement blessées.
Extrait du journal du 26 octobre dernier sur ces manifestations, vous vous en souvenez, en Bretagne. On observera d'ailleurs que le vocabulaire utilisé est fort, hein. Apocalyptique, c'est pas rien. Mariette Darigrand, vous êtes sémiologue, je le rappelle. Je sais que ce traitement de la question sociale dans les grands médias télévisés aujourd'hui, vous irrite un peu. En termes de signes, puisque c'est votre métier, est-ce qu'on peut dire qu'on est quand même dans une dominante très noire ou presque morbide?
Oui, je pense qu'on est assez morbide, effectivement, parce que c'est la mise en scène, disons, cyclique, parce que les sujets d'actualité changent, mais le fond reste le même. C'est au fond une certaine France qui est en train de mourir et qui n'est pas remplacée par quelque chose. Donc, ce que nous montre la télévision, d'une façon générale, votre JT en particulier, mais pas plus que les autres, c'est en quelque sorte le spectacle de la fin ordalique des choses, c'est-à-dire on a des feux, on a des gueules d'ouvriers, on a des pleurs de femmes, et en quelque sorte l'épopée générale triste, tragique, qui finit mal, et la partie plus intime, puisque des gens perdent leur travail, s'encapsule extrêmement bien, mais sans finalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la fin de l'histoire, il n'y a pas le happy end, ça s'arrête et ça ressasse. Et donc ce qui est ennuyeux, c'est le recyclage des mêmes mots, des mêmes termes, et vous disiez, j'ai beaucoup aimé votre métaphore, on ne mélange pas les choux et les carottes. C'est vrai de votre point de vue de production.
Surtout pas dans une crise agricole.
Oui, voilà. Mais ça se mélange dans nos têtes de récepteurs. Si vous voulez, nous faisons des liens qui vous échappent à vous, mais qui sont des liens nécessaires de causalité. C'est-à-dire qu'un chaos répond à un autre chaos. Donc on a un chaos en Centrafrique, on a un chaos en Bretagne, on a un chaos en tempête. Et au fond, le chaos du fait divers, à ce moment-là, il vient juste emblématiser l'émotion personnelle. Et tout ça, ça tangue et on est quand même un peu mal. Heureusement, la fin du journal nous fait respirer. Et là, on a la petite minute de la culture et du beau.
La première heure du premier jour de la première année de l'école de journalisme dans laquelle j'étais il y a très longtemps, au CFJ, le prof qui faisait la leçon inaugurale nous a dit « Faites attention parce que vous allez travailler pendant 40 ans et vous allez être amené à votre corps défendant à ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. » faites attention, faites gaffe dans la hiérarchie, dans le dosage. Et le reproche, je vais souvent, je me promène, j'ai des amis qui ne sont pas du tout dans le monde de la télévision, ils me disent, mais est-ce que tu as vu ton journal? C'est exactement ce que vous disiez un instant. Est-ce que tu as vu ton journal hier soir? Je dis, bah, oui, non seulement je l'ai vu, mais j'ai activement participé. Il m'a dit, mais c'était triste, c'était sombre. Et donc, la question qu'on se pose chaque jour, c'est non seulement la hiérarchie de l'information, mais le dosage. Et le dosage où, dans un pays qui n'est pas comme celui que j'ai bien connu pendant longues années, les États-Unis, qui fonctionnent différemment, dans un pays qui est mu par l'optimisme, par la régénérescence, hein, mais par un pays qui est la France, qui, globalement, si c'était un corps physique unique, est quand même torturé par moment par la crainte un peu existentielle du déclassement, etc. Donc, nous faisons un journal en 2013 dans un pays qui est comme ça. Et donc, quel doit être le dosage et quel est le sens à donner, par exemple, à une crise sociale, à la fermeture d'une usine, à un plan social? Et on se pose cette question tout le temps.
Si on va un petit peu plus loin, parce que évidemment, personne ne conteste que la situation économique n'est pas resplendissante et qu'il y a du déclassement social en France, c'est évidemment pas le propos. En revanche, quelle est la responsabilité, encore une fois, des médias, la responsabilité sociale des médias et en particulier du journal télévisé dans ce climat-là, sachant qu'on est en présence d'un climat social délétère, est-ce que les médias ne doivent pas s'interroger sur le rôle qu'ils ont par rapport à ça? Parce que s'ils font que eux-mêmes que de la misère sociale, enfin, je veux dire, on est vraiment dans un cercle vicieux aussi. Enfin, du coup, on y participe.
C'est à nouveau une question centrale. C'est ne pas amplifier ce phénomène, ne pas le nier. Vous avez, puisqu'on parle du social, une fermeture d'usine, un plan social, 1500 personnes qui, le lundi matin, n'auront plus de job. On en parle. Mais à chaque fois, on essaie de donner du sens. Et à chaque fois, on essaie aussi d'induire un antidote. Mais alors ça, nous nous sommes un peu programmés pour ça en disant « Cette entreprise-là va très mal ». Expliquons pourquoi. Ce n'est pas un phénomène météorologique, une entreprise qui ferme. C'est une entreprise dans un pays développé en 2013 qui ferme pour telle et telle raison rationnelle. Et après, dans ce journal-là, ou dans celui d'après, ou la semaine d'après, donnons l'exemple, on l'a fait encore il y a quelques jours, d'entreprises qui ne sont pas forcément des méga-entreprises, mais qui ont trouvé une niche, une forme d'adaptation dans ce grand darwinisme à l'échelle mondiale de la mondialisation pour vivre, pour se développer et pour embaucher. Et tout cela existe. Mais j'accepte tout à fait le fait que quand je lis le matin tous les journaux, les Échos, Alibé et l'après-midi, Le Monde, etc., je suis plus submergé d'exemples négatifs que de choses qui se délitent que de choses positives.
Ça nous conduit forcément à la question politique et c'est vrai que le public, dès qu'on parle de cette question-là, est souvent persuadé que, particulièrement au niveau du journal télévisé, on est dans le lieu de toutes les pressions du politique. Alors, question très simple au présentateur du journal le plus regardé de France, vous êtes l'objet d'amicales pression ou moins amicale du politique ou de l'économique?
De l'économique, non. On a une paix absolument royale parce que je crois qu'on est assez équanime, on donne la parole à beaucoup de gens et on nous fait jamais ce reproche.
Y compris si on veut enquêter sur les intérêts de Bouygues, je ne sais où dans le monde, ouais, en Afrique,
sûr.
Etc.
Ouais, ouais, non, on l'a fait, y compris pour les choses qui nous occupent en ce moment, comme la 4G, où l'actionnaire principal de TF1 est l'un des acteurs de ce qui se passe. Donc on fait un sujet qui sera dont vous pourrez juger de l'équité. Pour la politique, c'est autre chose. Les hommes, c'est pas moi qui le dis, c'est Jeremy Paxman que vous avez bien connu,
BBC.
De la BBC, merveilleux intervieweur. Il disait deux choses incroyables. Il disait, un homme politique qui ne ferait pas pression, il ferait pas bien son boulot. Et deuxièmement, quand un homme politique vient vous voir, il n'est pas forcément là pour vous dire la vérité. Il ne traitait pas les politiques de menteurs. C'est-à-dire qu'un homme politique est là pour intéresser, séduire, si possible, amener à lui des électeurs. Donc, connaissant ce présupposé, on interview et on reçoit les hommes politiques.
C'est
et
eux
on
qui
fait
s'invitent
des reportages. Non, c'est nous qui invitons. C'est nous qui invitons les hommes politiques. Mais là encore, pour reprendre ce que vous disiez il y a un instant, sur TF1 à 20h, les préoccupations des téléspectateurs qui regardent le journal, elles ne sont pas que politiques, elles ne sont pas que sociales sur une usine qui ferme ou une autre qui ouvre. Ils ont des enfants, ils ont des activités en dehors des problèmes de macroéconomie et de politique. Donc l'invité politique sur TF1 en 20h, il est choisi et il est finalement assez rare. Il faut qu'il soit en situation dans l'événement. Nous sommes dans l'événement. Et donc l'homme politique, il est, certains ne vont pas aimer ce que je veux dire, mais il est comme un grand patron, comme un syndicaliste, comme un chanteur, il est dans l'actualité de ce jour, pas hier et pas demain. Donc c'est pas la peine d'essayer de venir demain dans le journal de 20h, ça ne nous intéressera plus. En revanche, si vous venez, c'est aujourd'hui et pas hier.
Mi-politique, mi-économique, Bernard Tapie, vous évoquiez son nom il y a quelques instants, et cet entretien qui date de juillet dernier, ça tombe bien, on l'a sous la main, voilà comment il s'est achevé.
Donc je crois que c'est à la fois inutile, c'est malveillant, et surtout ça donne de nous. Mais c'est incroyable, il n'y a pas d'autres pays occidentaux dans lesquels vous pouvez saisir les biens de quelqu'un sans être jugé. Ça n'existe pas.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne.
Mais jamais, si, mais sans jugement. Oui, aux États-Unis, vous avez raison. Voilà. C'est le seul pays.
Merci beaucoup Bernard Tapie d'avoir accepté notre invitation au soir de cette journée qu'on imagine mouvementé.
Voilà, ultime échange, entretien quand même assez tendu, hein, où vous avez placidement, fermement, tenu tête à l'homme d'affaires, élément factuel et rigoureux à l'appui. On imagine, enfin, comme ça, on se fait peut-être des idées, mais on imagine que Bernard Tapie ne sort pas nécessairement ravi du studio dans ces cas-là. Est-ce qu'il se passe quelque chose après ou non, il était ravi?
Ah non, non, il n'était pas ravi du tout. Non, non, il n'était pas ravi du tout, mais voilà.
Et il ne se passe rien derrière?
Il se passe rien. Mais là encore, pardon de vous abreuver d'anglicisme, j'ai horreur, mais les anglo-saxons parlent de « fair question ». Ma question est-elle
Était à plat, factuelle, légitime et rigoureuse.
Et nous sommes entièrement d'accord. Il ne s'agit pas de questions méchantes ou au contraire complaisantes. Est-elle pertinente aujourd'hui? Les questions étaient pertinentes ce jour-là, avec une grande difficulté.
C'était le moment de la saisie des biens.
Oui, Bernard Tapie est extrêmement intelligent, il connaît très bien son dossier. Et l'obstacle que le journaliste doit surmonter, c'est d'expliquer, d'éclairer ce débat en 4 ou 5 minutes devant un public généraliste qui n'a pas des notions forcément extrêmement précises de droit. Et donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Le matin, j'ai lu le dossier, les livres, les attendus. J'ai passé des coups de téléphone à des journalistes, à des confrères, à des fiscalistes. Et je suis rentré dans une sorte de jungle, pour essayer d'en ressortir avec 25 questions. Il en est resté 7 ou 8. Mais je voulais absolument exercer un droit de suite et je ne voulais pas que Bernard Tapie, dont on connaît tous le talent oratoire, par une manœuvre éventuellement de diversion, puisse dire ça n'existe nulle part ailleurs. Si, monsieur Tapie, ça existe dans au moins 3 pays à l'étranger.
Isabelle Vera-Masson.
Oui, je voulais vous revenir sur les pressions politiques dans l'histoire des médias. Il y a trois grands types de pressions. Il y a la pression ancienne, directe, par l'homme politique ou par la hiérarchie à l'intérieur de journal télévisé ou du média. C'est la question que vous avez un petit peu répondu. Il y a la pression économique qui est arrivée quand la télévision privée est arrivée, et ça vous avez un petit peu répondu. Et puis nous avons vu apparaître, les chercheurs et vous, les journalistes, nous l'avons révélé, c'est la pression du communicant, c'est-à-dire comment le directeur de la communication va mettre à la disposition du journaliste ou de l'homme politique ou de l'interviewé des éléments de langage, des éléments qui vont vous bloquer, vous interdire de poser ça. Comment vous faites par rapport à cette nouvelle forme de pression?
Mais vous les sentez venir quelquefois avec un nez rouge, les éléments de langage. C'est-à-dire que vous avez pas... Mais on parle de politique, et c'est pas uniquement les politiques, ça peut être un acteur en promo, que sais-je. Chacun, on a l'impression que chacun maintenant transporte son conseiller en communication. Voilà. C'est assez, je pourrais pas dater, mais c'est assez nouveau.
Non, mais on l'a vu apparaître.
Et personne ne vient tel un agneau venant de naître en disant j'arrive avec ma candeur et puis je vais tout vous dire sur le film que je viens de tourner, y compris mes engueulades avec le réalisateur, etc. Non, chacun vient maintenant avec sa carapace, sa protection, etc. Et vous avez quelquefois des interviews avec des hommes politiques dont vous sortez un peu tiède en disant oui, c'était pas, il n'y avait pas vraiment de tension, c'était pas extraordinaire. Et l'homme politique en sort absolument ravi parce qu'il a placé, pardonnez-moi de vous dire, son élément de langage et qu'après, eh bien, le reste de l'interview est un peu secondaire. Donc, notre rôle, le mien et celui de mes confrères, c'est de poser jusqu'au bout des questions, y compris en allant au-delà des 2 ou 3 éléments de langage.
Gilles Boulot, présentateur du JT de 20h sur TF1 et l'invité du Secret des Sources cette semaine sur France Culture. Comment repérer les nez rouges? Quel rôle social? Quelle responsabilité sociale aussi pour le journal télévisé en 2013? Comme toujours, vous commentez, vous critiquez, vous complétez sur franceculture.fr. Dans un instant, l'homme des images et du multimédia, Éric Chavroux, nous rejoint dans le Secret des Sources, juste après ce standard du grand Gilles Scott Heron. La révolution ne sera pas télévisée. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. Revolution.
Revolution will not be televised, Jill Scott Heron. Il y a une autre dimension du journal télévisé dont il nous faut parler ici, c'est la dimension de la personnalisation. Alors, ces questions de forme ne sont pas trop notre tasse de thé d'habitude dans le secret des sources, sauf que le JT est un cas particulier puisqu'on est en présence d'un journaliste censé incarner l'information quasiment à lui seul. Et donc mécaniquement, si je puis dire, la figure et les valeurs que porte ce personnage ne sont pas neutres dans la société. Éric Chavot, vous décryptez donc les images chaque semaine dans le secret des sources. Justement, ce qui est intéressant, c'est que l'image que renvoie Gilles Boulot est un peu nouvelle, c'est-à-dire que on en a un peu fini avec l'homme tronc.
Vous parliez d'une grammaire, on parle aussi des codes du 20h. Et ce qu'on découvre beaucoup à votre propos, c'est en quelque sorte le présentateur qui se lève. C'est né dès vos débuts, aux deux tiers du journal, pour lancer la partie magazine. Vous passez devant la table, vous êtes au plus près du téléspectateur et donc vous êtes debout. On vous voit la veste entrouverte. Plus décontracté. Ce que je voulais savoir, c'est comment tout ça a été pensé. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? Quelle mise en scène? Même si je sais que ce mot, ça gêne les journalistes, mais il y a une mise en scène.
Il y a une mise en image, évidemment. On s'est dit, dès le début, que nous voulions chapitrer le journal et lui donner une architecture lisible. Et comme nous avons constaté qu'un journal télévisé était télévisé, c'est un truisme, il fallait donner un signal visuel. Et donc, je ne me voyais pas dire à 20h21 ou 20h19, « Bon, écoutez, maintenant, on va passer à autre chose, à, par exemple, la vie des cétacés au large de la Côte d'Azur, et quelque chose qui, nécessairement, est dans un registre plus léger. » Je ne me sentais pas de le dire, de le verbaliser. Et donc, très rapidement, on s'est dit « puisque tu es assis, lève-toi. » Et cette césure sera marquée par le fait que, de assis, tu es debout. Et alors là, entre nous, combien de café et de litres de café avons-nous bu avant de se dire « Oui, mais ne crois-tu pas que c'est une transgression quand même ?» Parce que nous sommes chez les téléspectateurs, on ne fait pas n'importe quoi. Quelquefois, on me pose une question que vous ne me poserez pas, mais qui n'est pas indigne, qui est « Mais pourquoi est-ce que tu ne présentes pas col ouvert, une belle chemise col ouvert ?» Non, je ne veux pas argumenter, vous expliquer pourquoi je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas le faire. Nous sommes chez les gens, donc il faut un certain dress code, voilà. Mais assis, debout, c'est une transgression acceptable, et on l'a fait. Et les gens l'ont très bien accepté.
On est, Mariette Darrigan, excusez-moi, dans un enjeu symbolique essentiel, parce que le présentateur ou la présentatrice du JT a un rôle social de réassurance, d'autorité. Encore faut-il se placer correctement sur ce curseur-là à un moment donné de la société.
Oui, exactement. Et j'avais eu l'occasion de travailler sur PPDA à l'époque, qui fonctionnait vraiment comme une stèle. Il ne fallait pas qu'il bouge et les gens aimaient bien qu'ils soient impassibles. Ce que je trouve très intéressant dans ce que vous avez réussi à faire, c'est bouger dans la bonne mesure. Et je trouve très réussi aujourd'hui que vous alliez en quelque sorte au devant du téléspectateur juste ce qu'il faut par un petit mouvement des mains. C'est tout à fait intéressant. Et je mettrais ça. Ça, c'est un élément de modernité anglo-saxonne parce qu'on n'était pas habitué à ça en France. Où on avait la stèle inamovible, où on avait éventuellement au début de Pujadas quelqu'un qui bougeait trop, qui était trop dans le journalisme de terrain, si vous voulez. C'était amusant de voir comment les gens étaient parfois un peu dérouté. Donc je trouve que vous amenez ce très bon équilibre. Et puis je mettrai ça en rapport avec votre manière d'utiliser le « nous ». Quand vous dites « nous », c'est un « nous » qui a plusieurs valeurs, dont deux essentielles qui sont vraiment intéressantes. Je trouve je le dis sans flagornir parce que ce n'est pas facile à faire. Vous dites aussi bien « nous » les Français, vous incluez, et puis après, vous revenez dans la salle de rédaction. Nous avons voulu faire ça. Et je trouve que votre code stylistique, il est là. Les mains et le nous.
Mais ma hantise, c'est d'exclure. Ma hantise, c'est de dire, écoutez, vous n'êtes pas féru de sport, pas féru d'économie, ça ne va pas vous intéresser. Et par exemple, on m'a dit au début, vas-y mollo. Moi, j'aime beaucoup le sport. Je le pratique, j'adore, je trouve ça passionnant dans sa composante physiologique, sportive, médicale, juridique. Tout m'intéresse dans le sport, y compris dans le sport de masse ou sport de compétition. On m'a dit, vas-y mollo. Certains m'ont dit, vas-y mollo sur le sport. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas beaucoup. Le foot, la voile, etc. Et tous les jours que Dieu fait, pratiquement, il y a un sujet sport dans le journal. Pas forcément un sujet de haute compétition, mais un sujet parce que les gens qui m'entourent, le sport ou la musique ou la lecture ou les sorties, ou ça les intéresse, ça fait partie intégrante de leur vie. Donc il y a tous ces niveaux de lecture. On parlait de la crise économique, certes, du jeu politique, certes, la vraie vie, c'est ça. Et le journal de 20h, il est sur cette ligne qui est étroite de narration dans laquelle on parle de tout. Et tout doit intéresser nos téléspectateurs. Et donc, j'ai la peur d'exclure. C'est pour ça que ce « nous », il est un peu incluant.
Dernier chapitre de ce secret des sources autour de Gilles Boulot. Nous allons regarder demain. Et en guise d'introduction, on va donc regarder derrière.
Je préviens les auditeurs de la radiodiffusion française. Je vous ai dit tout à l'heure que l'émission d'aujourd'hui, l'arrivée du Tour de France, serait radiodiffusée et télévisée. C'est-à-dire que nous parlerons tout à l'heure simultanément sur deux micros, le micro de la télévision et le micro de la radiodiffusion. Donc, pour nos spectateurs de la télévision, je serai obligé de répéter...
Le premier direct à la télévision française en 1948, Jacques Salbert, l'arrivée du Tour de France. Donc, simultanément, vous avez compris, à la radio et à la télévision. Ça, c'était le tout début. 70 ans plus tard, le JT est confronté et va être confronté, sans doute, dans les années qui viennent, à de grosses secousses. Et la première, Isabelle Véramasson, c'est évidemment, on en a beaucoup parlé lors des émissions précédentes ici, l'essor, l'omniprésence, la concurrence des chaînes d'information continue. Elles contraignent le JT à se redéfinir.
Oui, sûrement, parce qu'il y a des choses très anciennes dans le JT qui ne semblent pas bouger par rapport à cet incroyable changement que nous vivons. C'est en particulier le fait que la télévision diffuse un journal à heure fixe, toujours la même, ce qui ne va pas avec la multiplication des usages, enfin des consommations de programmes. Et puis la fonction de gatekeeper, c'est-à-dire vous sélectionnez les informations à une époque où chacun considère qu'il est un producteur d'informations et qu'il peut choisir là où il veut. Mais vous êtes bousculé, alors me semble-t-il, profondément dans votre rythme, dans votre logique, par les chaînes d'information continue. Alors comment vous faites par rapport aux chaînes d'information continue? Vous réagissez?
Est-ce qu'il faut trier davantage?
Je vais vous parler de mes vacances. Il y a 2 ans, je suis allé dans un hôtel et pour la première fois, j'ai découvert le phénomène du snacking. À toute heure du jour et de la nuit, vous pouvez grignoter et manger quelque chose. Donc, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais voilà. Et moi, je suis plutôt pour le rituel. C'est-à-dire que je pense que dans l'information, il y a deux rythmes. Il y a celui de l'info continue. Je connais bien, parce que pendant de longues années, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, je travaillais pour LCI. Donc voilà, vous êtes au fil de l'information, vous la commentez, vous l'analysez rapidement, quelquefois pendant de longues et longues heures. Et puis vous avez le repas à heure fixe, qui est l'anti-snacking. Voilà, donc à 13h, à 20h, voilà. Et je pense que le repas à heure fixe, avec son rituel, avec sa communion, avec le fait qu'on s'attend à ce que le repas soit plus élaboré, avec des codes, eh bien, je pense que ça, à mon sens, n'est pas menacé. Et j'ai même tendance à penser, pour avoir moi-même pratiqué de l'info continue, pour lequel j'ai absolument aucun mépris, c'est très utile, que l'info continue nous a obligés, ça nous a peut-être un peu ébranlés pendant quelques jours ou quelques mois, mais ça nous oblige à trouver une voie en se disant, très sobrement, très simplement, puisque c'est fait de cette manière sur une chaîne d'info continue, ça ne peut pas être de cette manière-là, de la même manière, dans un journal de 20 heures. C'est très simple.
Pour rejoindre cette question du tri, on voit que les anglo-saxons, à nouveau, citons les anglo-saxons, ils ont un tri beaucoup plus important. Enfin, les journaux télévisés, prenons News at 10 sur la BBC, par exemple, il y a beaucoup moins de sujets. Donc, est-ce que ça, c'est une piste d'évolution pour les journaux télévisés par rapport à cette concurrence des chaînes d'info continue?
Assurément. Et c'est ce qu'on fait comme M. Jourdain, un peu comme Hugh Edwards à 22h sur la BBC, c'est-à-dire que la BBC ici, que vous connaissez très bien, Jean-Marc, ben, il y a 27 minutes d'antenne, il y a 6-7 sujets, mais magnifiques, formidables, approfondis, 3 plateaux d'analyse, etc. Et le journal de 20h, il y a quelques années, bon, il fait 35 minutes à peu près, il y avait 17 sujets, j'ai tendance à croire que maintenant, il y en a un peu moins, avec des longueurs différentes. Et au lieu de mettre 3 sujets d'une minute 30, on en fait un qui fait 4 minutes 30 ou 5 minutes. On va au fond des choses.
L'autre épée de Damoclès, Éric Chavroux, c'est évidemment Internet et l'impact des réseaux sociaux sur l'information à la télévision. Et là, c'est un peu à double tranchant.
Et on parlait de différentes pressions, on peut dire que c'est la pression du public via ces réseaux sociaux. Alors, il y a comme, semble-t-il, un hiatus entre vos déclarations à ce sujet, parce que par exemple, vous n'êtes pas sur Twitter.
Facebook, Twitter, non.
Donc, vous n'êtes ni sur Twitter, ni sur Facebook.
Honte à moi, je sais.
Et dans le même temps, les journalistes et votre chaîne investissent, dans tous les sens du terme, énormément ces réseaux sociaux. Alors, comment vous gérez ça? Vous ne les observez même pas? Vous avez un hashtag, un mot dièse pour le journal? Il n'y a pas du tout de...
Si, la réponse est double. La première, c'est que c'est très bête, mais je n'aurais pas le temps de nourrir intelligemment, avec profondeur, avec réflexion, un compte Twitter. Je n'aurais pas le temps. Voilà, donc autant ne pas se mentir, autant ne pas demander à quelqu'un d'autre de le faire en milieu plat. Là, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, je n'ai pas le temps de le faire intelligemment. Donc, je ne le fais pas. Pareil pour Facebook. En revanche, dans la conférence de rédaction, la première à 9h du matin, il y a toujours une personne qui travaille pour MyTF1 News, qui est le site, et avec lequel on essaie de décliner des choses, d'approfondir ou de prendre un petit chemin de traverse qui va nourrir ce site-là avec une résonance dans le journal de 20h.
Mais qui va vous proposer des sujets? Parce que, par exemple, dès 2006, LCI faisait un journal le soir sur la base de ce que consultaient les internautes.
Oui, je me souviens.
Donc c'était le public qui lui-même faisait l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes imperméable ou...
C'est une pente dangereuse, quand même.
Non, je ne suis pas imperméable.
Quelle barrière vous avez par rapport à ça? Parce que la pression, elle est vraiment grandissante.
J'écoute ce qu'on me dit, et le matin, on me dit, dis donc, tu sais, les gens parlent beaucoup sur les réseaux sociaux du fait que la NASA a trouvé, après enquête, l'endroit le plus froid du globe, moins 92 degrés à côté de la Terre Adélie. Ça intéresse, ça fascine les gens. Donc, je me dis, tiens, mais sujet intéressant, pourquoi pas.
Ça a déjà changé votre hiérarchie?
Non, ça n'a pas changé ma énergie, mais je n'ai pas d'œillère. J'ai aucun mépris, aucune ignorance et aucune œillère. Moi, je ne peux pas nourrir ça. Je ne peux pas nourrir un compte Twitter. Je n'ai pas le temps.
On voit apparaître dans certaines émissions, y compris d'informations, des réactions via Twitter de téléspectateurs, bandeaux en bas d'image, etc. On est en mesure de se demander si ça ne va pas apparaître un jour dans le JT. Et là, ça poserait des problèmes éditoriaux majeurs, quand même.
À mon sens, oui. Je pense qu'on n'est pas mûr pour ça. Je ne le suis pas pour ça. Et on parlait il y a un instant de la différence entre des chaînes d'information continue et un journal de 20h, je pense qu'un journal de 20h doit avoir un statut, une tenue, une neutralité, une lisibilité, une architecture qui font que on peut pas, à mon avis, tout mélanger, tous les niveaux de lecture.
Comme toujours, le secret des sources, excusez-moi Isabelle Vermasson, s'achève. Et c'est avec le clin d'œil de Yacine Bouzard. Yacine, fidèle à son ironie coutumière qui s'amuse avec les oreillettes, la course à l'audience, la concurrence entre les JT.
Est-ce un coup d'arrêt pour les vendeurs de cigarettes électroniques?
Les secrets de la croissance économique, l'intervention militaire française en Centrafrique.
Totalement inconnue il y a 2 ans, la cigarette électronique a aujourd'hui des centaines de milliers d'adeptes en France.
Une concurrence déloyale.
Il ouvre avec quoi, Pujadas?
Avec les buralistes.
Et les chiffres, ça donne quoi?
On est devant, là, c'est bien. Légal. Attention, on arrive. Surtout surveiller.
Les travailleurs détachés, ils travaillent...
C'est une question de survie pour cette PME de 55 salariés du BTP.
Globalement, Gilles, la 2 enchaîne comme nous avec les travailleurs détachés. Attention, on arrive, Gilles.
Elle nous coûte 20 euros de l'heure.
C'est un jour de repos qui est en principe...
Pour ce chausseur marseillais...
Et les chiffres, ça donne quoi?
Il y a un petit tassement. Pujadas a lancé avant toi le travail du dimanche.
Bon, il faut repasser devant. On trappe la suite, ok? Vous êtes calé?
C'est bon. La chambre de commerce. Attention, on arrive, Gilles.
Espère la création de 1000 emplois.
Dans l'actualité sociale, une grève...
On n'avait pas manifesté depuis 15 ans.
Les chiffres?
Déjà à l'époque, Claude Allais...
On passe devant.
Ok, super. Donc maintenant, on déroule normalement.
Attention, on arrive, Gilles.
Très bonne soirée à tous sur TF1. À demain.
Bon, rassurez-nous, Gilles Blou, on n'en est pas là quand même. Hein.
Bah non. Si on connaissait la recette de l'espionnite, on ferait tous des scores extraordinaires tous les jours, même quand l'actu est un peu plate. Non, on n'en est pas là. Mais on regarde chacun ce que fait l'autre. En plus, le bonheur ou le malheur fait qu'on se connaît bien avec David Pujadas.
Gilles Boulot, présidenteur du JT de 20h sur TF1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à nos chroniqueurs Isabelle Vermasson, Mariette Darigrand, Fabrice Lorvaux, Éric Chavroux. Le rôle, la responsabilité sociale aussi du JT en 2013. Secret des sources à commenter, à réécouter, à télécharger. C'est à vous de jouer sur franceculture.fr. Dans quelques minutes après le journal de Sarah Petitbon sur France Culture Réplique, Alain Finkielkraut reçoit la démographe Michel Tribala et l'écrivain Laetitia Van Ecoot pour évoquer la grande mutation française. Prenez soin de vous.
Dans l'information, il y a deux rythmes. Il y a celui de l'info continue, puis vous avez le repas à heure fixe, qui est anti-snacking. Voilà. Donc à 13h, à 20h, voilà. Et je pense que le repas à heure fixe, avec son rituel, avec sa communion, avec le fait qu'on s'attend à ce que le repas soit plus élaboré, eh bien, je pense que ça, à mon sens, n'est pas menacé.